vous invite à trouver Jonas, deuxième chapitre. Dimanche prochain, on va regarder Jonas, troisième chapitre. Et le dimanche 23, on va regarder Jonas, chapitre 4. C'est un petit livre, même pas 50 versets, mais un livre que beaucoup de gens connaissent. Les enfants de l'école du dimanche connaissent presque par cœur l'histoire de Jonas, grosso modo. Mais ça vaut la peine de se pencher en détail sur ce livre, comme sur tous les livres de la Bible d'ailleurs. Jonas était prophète de l'Éternel en Israël entre l'an 790 et l'an 760 avant Jésus-Christ. Donc, grosso modo, 8 siècles avant Christ, Jonas a exercé son ministère. Il était contemporain des prophètes Osée et Amos, et il a exercé son ministère juste après Élisée et juste avant Ésaïe. Si vous trouvez ces livres dans l'Ancien Testament, vous allez voir, ah oui, juste avant, juste après, et en même temps qu'eux. Donc, contemporain de Osée et de Amos, et juste après Élisée et juste avant Ésaïe. On parle de Jonas ailleurs dans la Bible, pas que dans le livre de Jonas. Et il y a des gens qui disent, bah, c'était un personnage mythique, ça relève des fables des Israélites qui n'étaient pas très avancés sur le plan intellectuel. Mais on ne peut pas dire ça, parce que Jésus lui-même a certifié l'authenticité de cette histoire et l'historicité de ce personnage. Donc, loin de nous de contredire le Seigneur Jésus. Donc, Jonas n'est pas un personnage du folklore israélite, on va dire, mais c'est vraiment un personnage biblique. Donc, je vais lire le chapitre 2. Et nous avons vu, juste pour vous donner le contexte, jeudi soir, nous avons vu que Jonas a fui loin de la présence de Dieu et il a fui loin de la parole de Dieu. Et nous avons vu jeudi soir qu'il y avait des conséquences graves pour lui et pour son entourage. Et il en est ainsi toujours. Quand un chrétien boude le Seigneur, il y aurait des conséquences plus ou moins graves pour lui et souvent pour son entourage. Ça peut être sa famille, ça peut être son église, ça peut être son travail. Heureusement, Jonas décide de revenir à Dieu. On pourrait intituler Jonas chapitre 2 le fils prodigue de l'Ancien Testament. On pourrait sous-titrer ce chapitre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Parce que Dieu a parlé une fois à Jonas et Jonas a dit non. Et Dieu lui parle une deuxième fois. Et cette fois-ci, Jonas dit oui. Donc, après avoir fui la présence de Dieu et la parole de Dieu, le voilà en train de courir, eh bien, Jonas revient à la présence de Dieu. Il revient à la parole de Dieu. Il revient au Seigneur. Donc, je dis Jonas, chapitre 2, verset 1. Il est possible qu'il y ait un petit décalage de quelques phrases entre votre Bible et la mienne. Peut-être la première phrase que je lis est la dernière phrase de Jonas chapitre 1. Mais on va lire Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, premier verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas prit à l'Éternel son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes les verrous de la terre m'enfermer pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance s'éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il y a des gens qui ont du mal à avaler qu'un grand poisson puisse avaler un homme. Mais il y a des témoignages récents de quelques individus qui ont été avalés par un cachalot et qui sont sortis vivants. Il y a quelques années, dans Reader's Digest Sélection, il y avait tout un article sur un bonhomme qui était avalé par un cachalot et qui a survécu. Il a été brûlé par les acides dans le ventre, mais bon, je vous passe les dessins, les détails, mais il n'est pas mort. Et le cas le plus célèbre, c'est le cas d'un certain Bartlett, en 1891, qui aussi a été avalé, et puis qui était vomi, et puis qui a survécu pour raconter sa mésaventure. Donc, il y a eu des cas de Jonas modernes, recensés, et cela nous aide aussi à voir que, bon, c'est possible. Et de toute façon, avec Dieu, tout est possible. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Eh bien, nous voyons que Jonas, d'abord, il revient à la présence de Dieu. Jonas, il est écrit « pria l'Éternel ». Peut-être dans votre Bible, il est écrit « Jonas a invoqué l'Éternel, il a supplié l'Éternel, il a crié vers l'Éternel, mais l'essentiel, c'est qu'il a prié l'Éternel ». Et ça faisait un bout de temps que Jonas n'avait pas prié, parce que Jonas boudait le Seigneur. Dieu lui avait dit quelque chose et Jonas a dit « Non, je ne veux pas ». Et Jonas, au lieu d'aller en Irak à l'époque, il a décidé d'aller en Espagne. Il boudait le Seigneur. Il avait fui loin de la présence de Dieu et tout d'un coup, il décide de revenir. Et dans cette prière, vous allez remarquer qu'il n'y a pas une seule demande. Mais cette prière est composée de trois éléments. La reconnaissance, la repentance, la confiance. Et dans toutes nos prières, je vous encourage à avoir un élément reconnaissance, un élément repentance, un élément confiance. Trois éléments essentiels dans la prière. Donc, Jonas prie et il parle de sa détresse. On peut comprendre. Avalé par un gros poisson. Il a failli mourir. Il était sauvé par un poisson et là, il dit, mais est-ce que je vais mourir? Il invoque le Seigneur dans sa détresse, dans son désarroi. Alors, c'est dommage parfois d'attendre qu'on soit dans la détresse avant de prier. Mais vous connaissez des gens, comme moi, qui ne veulent pas prier, mais une fois qu'ils sont dans la détresse, jusqu'à là, ils commencent à penser à là-haut. C'est déjà bien, mais c'est souvent trop tard. Mais lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans le désarroi en tant qu'enfants de Dieu, notre premier réflexe devrait être, Seigneur, je te présente ma situation et je te demande de m'aider. Non seulement il a prié Dieu, mais il sait que Dieu a entendu. Et il dit, il m'a exaucé. Il dit au verset 2 aussi, tu as entendu ma voix. Et combien de fois dans les psaumes nous lisons, je prie le Seigneur et le Seigneur m'entend. Je pense au... Est-ce qu'on a... Oui. Le tout premier chant dans J'aime. J'aime, ça veut dire j'aime l'Éternel. Le tout premier chant, c'est numéro 1, bien sûr. Et c'est basé sur le psaume 116 qui dit j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Rien de magique. Mais tout est fait biblique. Et Jonas savait que Dieu l'entendait. Dieu l'a entendu et Dieu l'a exaucé. Jonas, bien qu'il soit loin de Dieu et qu'il revenait vers Dieu, il savait aussi que Dieu était derrière ce qui s'est passé. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as jeté dans l'eau. C'est toi qui as envoyé des vagues. Il parle de tes vagues, de tes flots, verset 2, verset 3. Il est conscient que Dieu était derrière ces circonstances. On peut dire qu'il était conscient de la souveraineté de Dieu. Il savait que Dieu était le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Et comme il a dit au chapitre 1, il a dit, « J'adore le Dieu du ciel et de la terre et de la mer. » Il savait que Dieu était le Tout-Puissant. Alors, ce qui est formidable, il est dans le ventre d'un poisson, et je ne dis pas baleine, parce qu'il n'a pas dit que c'était une baleine, c'était un gros poisson, et il arrive à prier. Il y a du réseau là-dedans. Il y a du réseau partout avec le Seigneur. Alors, j'ai fait une liste d'endroits où je me suis trouvé et où j'ai pu prier. Dans ma chambre. Sur un fauteuil. À table. Dans un avion. Dans une salle d'attente chez le médecin. Chez le médecin. Quand il est en train de m'ausculter. Dans un bateau. Dans un restaurant, dans une salle évangélique, dans la rue, dans une forêt, à la montagne, dans une prison. Je vous explique pourquoi plus tard, un autre jour. Dans le tram, dans le métro, on a du réseau partout. Alors profitons-en, parce qu'on peut prier le Seigneur, parce que partout, il est prêt à nous écouter et à nous entendre. Et nous pourrons dire avec le psaume 116:1, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Du réseau partout. Ce n'est pas comme au camp. Il y a 3 semaines, nous étions responsables d'un camp marche à Saint-Lunaire et on faisait des heures et des heures. Enfin, c'était 2 heures. Hein. Deux heures de marche tous les après-midi sur le chemin des douaniers en Bretagne. Et puis, à un moment donné, la directrice du camp, j'étais un des leaders, la directrice de camp, voulait m'appeler parce qu'elle avait perdu une campeuse. Elle voulait m'appeler pour savoir si la fille était avec moi, parce qu'on était 2 ou 3 groupes. Et elle n'arrivait pas à m'avoir parce qu'elle n'avait pas de réseau. Ils n'avaient pas installé à l'époque sur le chemin des douaniers des poteaux pour qu'il y ait du réseau téléphonique. Donc elle m'appelait, elle n'arrivait pas à m'avoir. Je me suis rendu compte que la fille n'était pas avec moi. Je l'appelle la directrice, je n'arrive pas à la voir. Et puis on a dit, bon, de toute façon, c'est une fille, on a droit à 10% de perte, donc ce n'est pas bien grave. En tout cas, on a trouvé la fille 3 jours plus tard, et puis bon, ça allait. Non, on l'a trouvée tout de suite. Mais avec le Seigneur, il y a toujours du réseau. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc, Jonas revient à la présence de Dieu par la prière, mais il revient aussi à la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il a trouvé un nouveau testament de Gédéon dans sa table de chevet, dans le ventre du poisson? Est-ce qu'il a pu lire son nouveau testament grâce à son portable, qui est clair? Eh bien, vous savez, il a pu revenir à la parole de Dieu parce qu'il avait écrit la parole de Dieu, non pas dans son calepin, mais là-dedans. Et sa prière est presque uniquement composée de versets bibliques, de son livre de chants, c'est-à-dire du livre des psaumes. Il connaissait par cœur certains textes bibliques. Il savait que toute écriture est utile, inspirée par Dieu, utile pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu. Et dans ce texte, il cite plusieurs psaumes, le 3, le 18, le 30, le 31, le 42, le 69, le 71, le 118, le 120, le 130, le 143 et peut-être d'autres. Citer des textes par cœur. Alors, Pierre, sur qui nous a souvent parlé, et il avait raison, il a raison, nous a souvent parlé de mémoriser par cœur des textes de la Bible. Et ce qu'on apprend par cœur quand tout va bien peut nous servir quand tout va mal, quand on n'a plus de Bible, quand on n'a plus accès à Internet, quand on est malade, quand on est isolé, si on a la Bible écrite sur notre cœur, eh bien, cela peut nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Si on apprend des versets bibliques dans des moments de calme, Dieu peut nous aider dans des moments de crise, parce qu'il nous rappelle ce que nous avons écrit ici. En mars 1973, plusieurs soldats américains étaient en prison à Hanoï, au Vietnam. Et pour ne pas perdre la tête, parce qu'ils ne savaient pas, est-ce qu'on va être torturé? Est-ce qu'on va être massacré? Est-ce qu'on va être libéré? Pour ne pas perdre la boule, ou pour ne pas perdre la tête, pardon, ils ont décidé, les soldats américains, ils n'avaient pas de Bible, mais ils ont décidé de faire une liste de tous les versets bibliques qu'ils connaissaient par cœur. Donc certains connaissaient plus de versets que d'autres, mais ils ont commencé à écrire pour se réconforter, pour se fortifier et pour se donner de l'espoir, pour garder l'espoir et pour penser à Dieu. Donc ils ont fait cet écrit, il y a eu un article dans le Time magazine à l'époque, et je me suis toujours demandé quelle était l'épaisseur de leur écrit. Combien de versets bibliques ils ont pu écrire sur des pages de A4. Mais suite à cette expérience, je me suis dit, ce matin, si on n'avait pas de Bible, et entre nous, on est 80, on devait mettre sur page après page après page tous les versets bibliques que nous connaissons, combien de versets différents est-ce qu'on mettrait? Et quelle serait l'épaisseur de notre écrit? 3 pages? 150 pages? Qu'est-ce que vous connaissez par cœur? Et bien sûr, je me suis posé la question, qu'est-ce que je connais par cœur? Si je devais mettre tous les versets bibliques que je connais par cœur, est-ce que mon livre serait épais ou minuscule? Bien sûr, on connaît tous Jésus pleura. Jean 11:35, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, Jean 3:16, voilà, il y a quelques-uns comme ça. Mais en tout cas, je ne vais pas redire tout ce que Pierre nous a dit, mais il est important d'être, c'est quoi le mot que je cherche? D'être, le mot m'échappe. En tout cas, il est important de se décider de lire et de mémoriser des textes, voire des chapitres par cœur. Il y a des gens aujourd'hui dans nos quartiers qui connaissent le Coran par cœur, en arabe. Il y a un nom pour ces gens-là. Et ils se vantent auprès de tous les musulmans. Je suis un, j'ai oublié le nom, et je connais le Coran par cœur. Et tout le monde se met à leurs pieds pour dire, oh là là, ils sont bien. Nous ne voulons pas que des gens se mettent à nos pieds. Mais si on pouvait apprendre des textes par cœur, cela pourrait nous aider. Donc, revenons à Jonas. Il est conscient qu'il était pas loin de la mort, pas loin de la noyade, il parle d'avoir été presque suffoqué, aucun espoir, aucune issue. Et puis il dit, mais Dieu, tu m'as fait remonter de la mort. Il dit même au verset 7, Éternel, mon Dieu. Ça, c'est intéressant. Quand on sait que pendant un certain temps, il boudait le Seigneur. Il ne voulait pas être appelé le prophète de l'Éternel. Mais là, il dit, Éternel, mon Dieu. Et puis, il dit aussi au verset 5, Seigneur, un jour, je verrai le temple. Le temple, il n'y avait qu'un temple à Jérusalem. Mais il avait la foi pour dire, un jour, Seigneur, je verrai ou je reverrai ton temple. Ça, c'est la foi. Prier comme ça dans le ventre d'un poisson. Il faut le faire. Ou plutôt, il fallait le faire. Après avoir parlé au vrai Dieu, il parle des idoles. Et vous voyez ce qu'il dit, ceux qui prient les idoles s'éloignent de la bonté. C'est inutile de prier les idoles. Donc on peut résumer cette prière de la manière suivante. Jonas, dans cette prière, reconnaît la souveraineté de Dieu. Il reconnaît la justice de Dieu et dit, mais Dieu, tu es juste. J'ai mérité d'être avalé par ce poisson. Il reconnaît la bonté de Dieu. Dieu aurait pu le laisser se noyer dans la mer, dans la Méditerranée, en pleine tempête. Mais Dieu étant bon, est allé le repêcher. Et il reconnaît en même temps la grâce de Dieu. Donc dans ce chapitre, Jonas revient à la présence de Dieu. Il revient à la parole de Dieu. Il cite les versets bibliques. Il se laisse encourager, consoler par des versets bibliques. Et on peut dire que suite à cette expérience, Jonas, il a plus de compassion envers les perdus, les non-croyants. C'était ça sa mission. Dieu lui dit, va dans cette ville de païens, d'idolâtres, d'hommes violents. Et il dit non. Mais là, il dit maintenant, eh bien, je vais y aller. Il avait plus de compassion parce qu'il savait que les idolâtres étaient complètement perdus, loin de Dieu. Deuxièmement, il a plus de reconnaissance envers le Seigneur. Il dit, verset 10, « Je vais t'offrir des sacrifices et un cri de reconnaissance. » On peut imaginer que quand on est vraiment, quand Dieu nous sort d'un trou, normalement, on devrait être vraiment reconnaissant. Et Jonas dit, « Je vais être reconnaissant pour ce que tu as fait. » Troisièmement, Jonas, il a dit, « Ah ben, je vais me consacrer à ce que tu veux. » Il dit, « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Verset 10. Peut-être quand il est devenu prophète, il s'était engagé devant le Seigneur, peut-être devant les hommes, pour dire, « Je vais être fidèle. Je vais être obéissant. Je vais être consacré. » Il avait oublié ses vœux. Et il dit, « Mais Seigneur, je m'engage à faire ta volonté. » Et quatrièmement, il semble qu'il va avoir plus de conviction dans l'annonce de son message. Parce que la dernière phrase de sa prière, le salut vient de l'Éternel. Ce ne sont pas les idoles qui vont sauver qui que ce soit. Elles ont des yeux, elles ne voient rien. Elles ont une bouche, elles ne disent rien. Elles ont des oreilles, elles n'entendent rien. Ils savaient que les statues, les idoles ne pouvaient rien. Mais ils savaient seulement que le salut venait de l'Éternel. Jonas a saisi la grâce de Dieu parce qu'il avait été saisi par la grâce de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Et puisqu'il revient à Dieu comme un fils prodigue, comme un chrétien qui s'est éloigné, il revient à Dieu et il est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça, la repentance. La repentance est un changement d'attitude radicale. Un changement d'attitude envers Dieu, envers le péché, envers soi-même et envers les autres. Un changement radical, la repentance. Et c'est ce que Jonas a vécu dans le ventre de ce poisson. Heureusement que Dieu ne nous met pas tous dans un ventre d'un poisson pour nous ramener à lui. Parfois, il nous laisse aller très loin, jusqu'à ce qu'on soit là, avec des soucis, les problèmes, jusque-là. Mais il nous tend sa main et il veut nous rattraper. Il veut nous récupérer, parfois la petite cuillère, comme je disais jeudi soir. Mais Dieu est un Dieu de grâce, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Le poisson était plus obéissant que Jonas. Hein? Chapitre 1, verset 2, l'Éternel parla à Jonas. Et Jonas a dit non. Ici, 2, verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson dit oui. Peut-être qu'il est content de se débarrasser d'un objet un peu indigeste. Mais l'Éternel parle. Hier, j'ai commencé dans mon culte personnel, Ésaïe. Première phrase que j'ai dit, ou deuxième phrase, « En effet, l'Éternel parle. » Intéressant. « En effet, l'Éternel parle. » Est-ce que nous avons l'habitude de l'écouter? Je conclue. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est un mot en hébreu. C'est un mot qui signifie 18. Et c'est une prière, ou plutôt une série de prières. Les Juifs pieux prient le Shemone Esre, on va dire. Mon hébreu n'est pas très fort, hein. J'ai perdu mon latin et mon hébreu en même temps. Peu importe. Ça veut dire 18. Et c'est parce que les Juifs devaient prendre 18 courtes prières par cœur. Si vous tapez ça sur Google, ou un autre moteur de recherche, vous allez trouver ces prières en hébreu, en anglais, et si vous cherchez bien, en français. 18 prières devaient prendre par cœur. Et puis au 19e siècle, les chefs rabbins ont décidé d'ajouter une 19e prière. Mais ça s'appelle toujours 18. Ils n'ont jamais changé le nom. Mais je vais mettre sur l'écran la 5e prière, qui est une prière de repentance. Une prière de retour au Seigneur. Ô Père, fais-nous revenir à ta loi. Fais-nous revenir au roi, à ton service. Fais-nous revenir par une vraie repentance. Béni sois-tu, parce que tu acceptes notre repentance. Cette prière reflète l'expérience de Jonas. Il revient à la présence de Dieu. Il revient à la parole de Dieu. Il revient au service de Dieu. Et pour tout chrétien, même si superficiellement les choses semblent aller bien, on a parfois besoin de faire un halt et de se redonner, se reconsacrer au Seigneur. Et de dire, Seigneur, je veux revenir à ta présence. Ça fait un bail que je n'ai pas prié. Je veux revenir à ta parole. Ça fait deux mots que je n'ai pas lu la Bible. Eh bien, Seigneur, je veux revenir. Et si vous dites ça, Dieu ne va pas oublier votre engagement. Dieu va vous rappeler à l'ordre. Et Dieu va vous aider à tenir votre parole. Que le Seigneur nous aide déjà à ne jamais fuir sa présence et sa parole. Et si on le fait, qu'il nous aide à revenir à sa présence et à sa parole. Prions. Père Céleste, nous te remercions, car nous pouvons toujours venir vers toi, n'importe où. Merci, car Jonas nous donne cet exemple d'un rétrograde qui est revenu bouillant pour le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à être conscients lorsque nous sommes en train de nous éloigner de toi. Arrête-nous sur notre chemin, afin qu'on revienne et qu'on revienne vite. Nous savons qu'il y a des dégâts collatéraux lorsqu'un chrétien s'éloigne de son Dieu. Nous te prions de nous garder et de nous aider à encourager d'autres qui se sont déjà éloignés peut-être, que nous connaissons. Aide-nous à prier pour eux et à les exhorter à prendre les bonnes décisions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci aussi pour la pluie et pour le beau temps. Nous avons besoin des deux. Et merci car tu es un Dieu qui est bon, vrai et rempli de compassion envers nous. Merci pour cela. Amen.